Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile, en direct sur RMC. Comme tous les jours, de 18h à 20h, on est là dans Rotten sans flamme. Magnifique émission qui s'annonce, on va se régaler en ce jeudi après-midi, fin d'après-midi. Restez bien avec nous, 2 heures d'émission, restez dans votre voiture, ne rentrez pas chez vous. Et appelez vos amis, on sera encore plus nombreux. En tout cas, il y a une belle équipe et il y a des belles surprises aujourd'hui. On est avec Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah ouais, ça va ouais. Super. J'ai hâte de faire cette émission avec vous.
Grande émission. Pourquoi ? Ah ouais. Parce qu'il y a de l'actu. Puis surtout, il y a l'avis de recherche.
Oh là là.
Avis de recherche avec monsieur Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut Dugas.
Salut Benoît, salut Jérôme. Voilà. Bonsoir à tous. Ah oui, je suis pas vraiment inquiet.
T'es pas inquiet quand même.
Je suis dans l'attente. Voilà.
S'il y avait un mot pour définir cet avis de recherche, ça serait électrique.
Ouais.
Ça va être électrique.
Électrique.
Ah, très bien.
Moi, je pense qu'il peut pardonner.
T'as retrouvé un mec à qui j'ai vu les chiffres.
Du gars, tu m'as dit, il y a une seule personne que je veux pas entendre, elle est pas au casting. Le reste, c'est bon. Donc, on a fait ce qu'on a voulu. Ben tu vois,
on va voir si tu peux pardonner. En tout cas, moi, c'est pas mon idée, du gars, je te le dis tout de suite.
on assumera.
On espère
qu'on va rester.
On est avec un qui s'est régalé hier avec la vie de recherche, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Michel.
Ah oui, salut
Jean-Michel. C'était avant-hier, mais t'es carbo.
C'était avant-hier, c'est vrai.
Jérôme, je sais que t'es carbo. Bonjour à tous.
Je suis pas carbo, je suis en pleine forme.
Ça va, Jean-Mi?
Oui. Il voulait pas parler. Il voulait pas parler à Dédé.
Qui te dit que c'est lui?
tout à fait par hasard comme ça c'est qui m'a traversé l'esprit, je sais pas.
Dédé, c'est plus qu'un exploit, parce que déjà il fallait lui faire passer que c'était pour Dugas, et ensuite que c'était Dorothée sans flamme. Alors là, écoute,
ouais, d'accord, ouais.
On a lancé Dédé et deux herbilles, on n'a pas eu de réponse. C'est pas grave, on retentera la prochaine fois lors de la prochaine opération. Donc c'est à 19h, soyez bien là pour l'avis de recherche spéciale Christophe Dugarry.
RMC, avis de recherche.
Les retrouvailles en direct entre Dugas et plusieurs personnes qui ont marqué sa vie. S'il a marqué la vôtre, vous nous le dites au 3216 sur le numéro WhatsApp 06 12 424 424. N'hésitez pas, on adore les témoignages. On vous attend donc à partir de 19h pour parler de tout ça. Une légende du FC Nantes sera avec nous, messieurs, ce soir à 18h45 pour évoquer justement la situation des Canaries. Rénal Pedro sera là.
Je croyais que c'était.
Rénal Pedro sera là à 18h45. Ah bah oui, légende du FC Nantes, champion de France.
Rénal Pedro, c'est
incroyable.
32 matchs sans défaite.
Passeur décisif d'un des plus beaux buts du championnat.
Ouais, quel but
contre le PSG. Alors, ça me fait mal au cœur.
Allez voir ça sur internet, parce que là, c'est vraiment l'un des buts de l'histoire du championnat de France. Magnifique.
Incroyable.
Une touche de balle, bam bam bam.
Ah ouais, but de Patrice Loco.
Patrice Loco,
qu'on embrasse, Pat, il nous écoute souvent.
Et bien, on aura Rénal Pedro, donc à 18h45, supporter nantais. On vous attend également si vous voulez réagir à la triste actualité de votre club. À 18h30, un grand procès, là aussi. Le procès ce soir de Nasser Al-Relaifi, accusé de couler le foot français. On a 3 avis complètement différents. Ça va être très intéressant Jérôme, entre Dugas et entre Jean-Michel.
Là, j'ai hâte parce que là, je comprends pas.
Ah bah, tu vas voir. Écoute, tu auras des arguments de tous les côtés.
Clair,
tu verras, ce sera un grand moment à 18h30 ce soir. Et puis, vous le savez, le vendredi 13, c'est demain, vendredi 13 février, ce sera dans Rotten sans flamme que ça va se passer. Vous pourrez gagner jusqu'à 30 000 euros en cash net d'impôts et quelques jours après sur votre compte en banque. 30 000 euros du gars Jean-Michel Jérôme, rendez-vous compte. Magnifique cadeau que l'on vous offre. Il faut envoyer 13 par SMS au 732-16. 13 au 732-16 dès que vous entendrez cette alerte sonore. Soyez bien attentifs, ça peut tomber à tout moment dans Rotten sans flamme. C'est le moment de s'inscrire, Jérôme. C'est demain que ça va tomber, les 30 000 euros.
Je suis sûr que ça va tomber dans Rotten sans flamme.
Ah bah, c'est demain dans Rotten sans flamme, c'est prévu.
Je croyais que c'était dans toutes les émissions.
Non, là, il y a les alertes.
Mais les carbos.
Tu t'inscris.
Il
y a les alertes.
Tu connais fraises, lui aussi.
Ça vous a fait du mal, la vie de recherche, à chacun. Vous remettez pas de vos émotions.
Attends. On fait ça depuis le début de semaine, mais j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était un tirage. Donc là, c'est sûr, il y a 30 000 euros vendredi.
Oui.
Dans Rotten sans flamme.
Enfin, d'accord. Écoute, les gens s'inscrivent et là, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante sera avec nous dans Rotten sans flamme demain pour le jeu des 30 000 euros. On peut gagner jusqu'à 30 000 euros.
Ah oui, non, Jérôme, c'est ça, donc toi, j'ai bien compris.
Jérôme, toi bien comprendre ce que dit. Non, toi bien comprendre
ah, t'avais
dit.
Compris, toi. Et moi, je pensais que c'était garanti 30 000. Non, il faut avoir de la chance.
C'est la somme maximale qu'on peut gagner. Mais c'est quand même une magnifique somme.
Mais je suis sûr que ça va tomber dans le.
Moi aussi, j'espère. Allez, 18h05 sur RMC, tout de suite.
On le fait, hein.
Ah, on le fait.
Non, les sens,
c'est bien. Sinon, tu combles la différence, on pourrait faire ça. Bon, on verra. On verra demain.
Ah ouais, ça.
Allez, tout de suite dans Rotten sans flamme. Réussir à l'OM, ça devient mission impossible.
Tout ça ne peut pas être vrai.
Vous n'avez jamais là, c'est ton doute.
Votre équipe a été trahie.
Championnat pour eux, dans pas longtemps, vous verrez qu'il y aurait deux personnes à notre place. Il faudra encore leur laisser du temps de travailler parce qu'à Marseille, t'as jamais le temps.
Tous vos secrets compromis.
Pour jouer à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas négociables, non? La personnalité, faire du vélodrome ta force.
Tout ce que vous avez été.
Allez, ah, basta, je coupe, allez, hop.
Tout ce que vous avez fait.
Allez, bande de l'escroc, allez.
A conduit à ça.
Au sein du club des dirigeants, on en veut aussi aux joueurs et on veut désormais les mettre aussi devant leurs responsabilités.
Nos vies sont la somme de nos choix.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Reste Zerbi, vous en pensez quoi?
Ah ben qu'est-ce que ça me passe possible? C'est pas de sa faute à lui, hein.
Ta destinée, c'est ta raison d'être.
J'en dérange, mais vous allez voir.
Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir.
Longoria et Mehdi Benatia vont avoir leurs responsabilités. Tous les regards vont être braqués sur eux.
C'est morné dans l'œuf.
Manu, on comprend rien.
Morné dans l'œuf, c'était hier avec Manu Petit. Oui. Ça, c'est
hier.
Ah, c'était fou. Si vous avez loupé la vie de recherche de Manu Petit, allez revivre ce grand moment sur la chaîne podcast de Rotten sans flamme. Parlons donc de ce fameux contexte marseillais qui est régulièrement cité depuis le départ acté de Roberto De Zerbi, ce club très populaire, la ferveur incroyable dans la ville et partout en France, des attentes très élevées de la part des supporters qui rêvent de retrouver la gloire du passé, et cette pression médiatique aussi à laquelle nous participons régulièrement avec Rotten sans flamme et avec les émissions d'RMC. L'OM n'a plus remporté de trophée depuis 13 ans, vit dans l'ombre du PSG champion d'Europe qui marche sur le championnat de France depuis l'arrivée des dirigeants qataris en 2012. Et malgré tout, on rappelle aussi que Marseille possède, Dugal dit souvent, le deuxième budget de Ligue 1, 260 millions d'euros. C'est loin derrière Paris et c'est 850 millions, mais c'est loin devant Monaco qui est troisième avec 140 millions. Des Marseillais qui vont accueillir un septième entraîneur dans quelques jours. Septième entraîneur sous l'ère Longoria qui est arrivé en 2021. Je vous rappelle juste l'info RMC Sport d'hier, signé Florent Germain et Fabrice Hawkins. Mehdi Benatia, directeur sportif, avait lui aussi proposé sa démission en solidarité avec De Zerbi, démission qui a été immédiatement refusée. C'est la une de Rotten sans flamme, Jérôme. Le contexte marseillais rend-il la mission impossible? 32-16 pour participer avec nous.
Alors, le contexte, il rend la mission très compliquée. Le constat, c'est que sur les dernières années, et pas que sur les 2-3 dernières années, hein, ça fait un bout de temps que ça dure, un entraîneur qui s'inscrit dans la durée à l'OM, bah, il y en a quasiment pas, en fait. Et tu t'aperçois que ceux qui arrivent à survivre, parce qu'on parle de survivre pendant 2 ans, voire 3 saisons, c'est vraiment l'extrême, là. On est au bout du rouleau quand on parle de 3 saisons de suite. C'est parce que ces entraîneurs-là, la première année, ils ont eu des résultats. Soit ils ont gagné un trophée, alors ça fuit à l'Olympique de Marseille depuis quasiment 15 ans maintenant.
13 ans.
C'était Didier Deschamps. Mmh. Et on se souvient comment ça s'est terminé avec Didier, très mal. Et pourtant, il avait gagné avant le championnat et après la coupe. L'autre qui a duré, c'est dernièrement
Rudy
Garcia, parce qu'il a fait finale de Coupe d'Europe et ça lui a donné du crédit. Et tout le monde était
2 ans et demi, ouais, Rudy Garcia.
Ouais, 2 ans et demi, mais ouais. parce que cette finale de Coupe d'Europe, si tu veux, l'a embellie, et il a surfé là-dessus. Après, il y a eu des du craquage sur le recrutement et même la communication, mais ça peu importe. Il est quand même resté plus de 2 ans, et c'est un exploit. Et puis après, dernièrement, le problème, c'est que t'as pris des entraîneurs qui sont alors je suis pas des psychopathes, mais ils sont cinglés, en fait. Ils sont cinglés, tout simplement.
Forte personnalité, quoi.
Tu prends Bielsa, professeur de football, tu sais que d'un moment à un autre, il peut t'exploser.
Parti le soir de la première journée.
Exactement. Sampaoli, on peut pas dire que c'est un tendre. Il l'a vu, et même lui regrette d'être parti comme ça.
C'est vrai.
Tudor, même si il y a du bon et du moins bon, mais les mecs, ils ont quand même explosé, ils sont partis. Et puis après, t'as essayé de tenter Marcelino, qui lui est resté 3 mois. il était plus calme. Ils se sont dit peut-être que un mec un peu plus serein et moins exubérant. Ça va marcher. Non, ça marche pas. Donc en fait, moi je sais pas. Moi je partais du principe, et c'est pour ça que j'ai défendu l'année dernière De Zerbi, c'est que je trouve que un entraîneur qui ressemble un peu à cette ferveur et à ce côté un petit peu folklore de un peu beaucoup de cette ferveur, si tu veux, à Marseille, c'est-à-dire que tu t'enflammes vite au bout de deux victoires et tu tombes dans des grosses critiques après deux défaites. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu voir un entraîneur passionné comme De Zerbi l'était, comme Sampaoli l'était, parce que ça ressemble un peu aux gens là-bas. Le problème, c'est que il faut mettre le pied sur le frein et que ces gens-là, passionnés de football, tout ce que tu veux, et pris dans cette ferveur, ils ne mettent pas le frein à main. Et donc, ils continuent et continuent. Et puis après, ils s'en prennent à tout le monde. Ils deviennent complètement cinglés, où ils surveillent tout, la communication,
les comportements. Quand c'est répétitif, Jérôme, quand c'est répétitif, que l'entraîneur soit expérimenté, pas expérimenté, qu'il soit calme, qu'il soit excité, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, de toute façon, le résultat est le même. Donc, à un moment donné, il faut trouver la vraie raison, quel que soit le profil de l'entraîneur. Ça ne marche plus à l'Olympique de Marseille, avec un budget, vous l'avez rappelé quand même, qui frôle les 260 millions. De temps en temps. Alors, de temps en temps, ils accrochent une participation en Ligue des Champions. Enfin, les participations en Ligue des Champions, y compris celle-ci, ça n'a pas été couronné d'un énorme succès. On a quand même parfois cherché les points sous une feuille de salade. Là, cette année, on se disait, bon, ils vont passer le premier tour, padaboum, nouvel échec. Donc je pense que les deux présidents, honnêtement, après je me trompe peut-être, mais les deux présidents qui ont véritablement réussi, si je mets l'exception d'Acier là au milieu, Jean-Claude Dacier avec Deschamps. Mais les deux présidents, alors l'un vous le connaissez bien, l'autre vous le connaissez moins. Le premier, il s'appelait Marcel Leclerc, c'était dans les années 70, quelque chose comme ça. Lui, il avait même viré un entraîneur un peu comme Boiré au Paris Saint-Germain, qui s'appelait Lucien Leduc, alors qu'il était en tête. Mais ça marchait. Mais c'était un président qui n'écoutait que lui. Et le second, alors lui, il n'écoutait que lui, et vraiment que lui, c'était Tapie. Et les autres avaient beau parler, ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre, et ça s'est pas très bien terminé non plus avec Tapie.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Michel ? C'est mission impossible, alors ?
Ah ben pour le moment, je suis pas docteur en club qui ne réussit pas malgré des moyens conséquent. Je suis pas docteur en ça, moi. Je suis pas professeur de psychologie, mais il faut s'y pencher dessus quand même. Il faut se pencher là-dessus.
Je
pense quand même qu'il y a d'autres raisons uniquement que le terrain. Les recrutements, on te parle de stabilité. Hier, je vous écoutais, je crois que c'était vous. Il y a 160 mouvements.
Ouais, 154
mouvements.
Non, mais c'est fou.
Et dans le même temps, on vous parle de stabilité. Et dans le même temps, on vous parle qu'il faut vendre le club. Non, mais qu'il faut le racheter.
Quand on te parle de stabilité, c'est pas vrai. Quand tu vois les mouvements, autant de mouvements, il n'y a pas de stabilité. Mais peut-être que c'est la demande aussi de McCourt, hein, parce que apparemment McCourt est content d'une chose, c'est du travail de Benatia, parce que à l'arrivée, entre les achats et les ventes, il est positif. Pour ça, c'est un exploit.
S'ils sont contents, bah,
apparemment,
parce que
il est content de ça.
Devient un commerce. Alors,
je précise que Franck McCourt sera au Vélodrome samedi pour le match de l'OM. Hein. Il sera présent, c'était prévu de longue date.
Bah, Duga, il peut nous en parler du contexte, il a connu. C'est dur, alors, Duga à Marseille.
Est-ce que c'est une fausse excuse ?
C'est des fausses excuses, ça. Le contexte, bien évidemment qu'il est particulier, mais c'est aussi fantastique, c'est aussi magique de jouer au Vélodrome, de vivre des sensations. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu une saison extraordinaire et j'ai connu la saison beaucoup plus difficile où il y a eu les deux extrêmes. Mais Mais le problème, c'est qu'il faut mettre de la compétence. Quand tu parles de 150 transferts, c'est oui. qu'à un moment ou un autre, s'il y a 150 transferts, c'est qu'il y a au moins 100 erreurs. Enfin, à un moment ou un autre, ça, au bout d'un moment, amener de la compétence, arrêter d'amener des mecs qui émotionnellement sont fragiles. Excuse-moi, De Zerbi. Le soir du match, quand on a pris 5, il déclare ne plus comprendre son équipe. Le mec, c'est le soir, t'attends une réponse, t'attends une analyse, il en a pris 5 face à Paris, après s'être excusé face à Bruges. Je comprends pas mon équipe, mais mec, il fait tout à l'envers. Ils font tout à l'envers, les mecs. Au bout d'un moment, tu pouvais plus le garder, tu pouvais plus le conserver, c'était évident. Sûr. Après une phrase comme ça, un entraîneur, il est là pour t'apporter des réponses, il est pas là pour se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais dès le départ, De Zerbi s'est plombé. Les mecs, ils ont une gestion émotionnelle. Alors on me dit, c'est la passion. Ouais. La passion de quoi? La passion, ça empêche d'être parfois juste, d'être parfois raisonné. De Zerbi, au bout de trois mois, il t'annonçait que si c'était lui le problème, ouais, il partait. Imagine un entraîneur qui vient d'arriver ici. Imagine. Après, attends, laisse-moi finir, Jean-Michel. Après, il est arrivé, il y a eu le problème des arbitres. Souviens-toi, l'arbitre, il était hystérique, le mec. Il était un fada. Après, il s'en est pris à ses joueurs. Ça a été,
Greenwood.
Après, il s'en est pris à Pierre, à Paul, à Jacques. Après, il a réussi en fin d'année, il a réussi à accrocher la Ligue des Champions. T'avais l'impression qu'il avait gagné la Ligue des Champions. Ouais, c'est-à-dire vrai. Que le mec, quand ça va pas, tout est catastrophique. Et alors là, t'as l'impression qu'il va pleurer. Il te dit, moi, je suis un mec de la rue, je suis ci, je suis là. Non, il te raconte sa vie. On s'en fiche. Et quand tout va bien, le mec, il s'emballe. C'est-à-dire que, oh, un peu de mesure. Il y en a suffisamment de fada. Il y a pas besoin, mec. T'es là, t'es un entraîneur. T'es là pour avoir un objectif, quelque chose de clair et pas changer d'avis toutes les 10 minutes ou tous les 3 jours. Ouais, ça a été le cas avec Rabiot, ça a été le cas avec Mourinho, ça a été le cas avec Mopé. C'était tous ses fils. Ouais, il les a virés juste après, lui ou quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, le discours, il est inaudible. Parce qu'à force de vouloir prendre des entraîneurs à caractère, tu prends des entraîneurs qui sont, ils sont incompétents. Ils ont été où? Alors écoutez-moi bien. Les entraîneurs qui sont passés à Marseille, ils ont entraîné où après? Ils ont réussi. Où c'est qu'ils ont réussi?
Tudor, il avait rebondi à la Juve.
Il
a rebondi à la Juve, il est resté combien de temps?
Oui, ça s'est pas bien passé.
C'était un trampoline.
Du cas, quelqu'un l'a choisi de Zerbi.
Mais bien sûr que quelqu'un l'a
choisi. C'est Benatia qui l'a choisi.
Jean-Michel, plus que ça, c'est-à-dire que De Zerbi, on nous l'a présenté comme le centre du projet et comme un cadeau. Mais on peut pas arriver avec un peu plus d'humilité, un peu plus de discrétion. De Zerbi, souviens-toi quand il a dit, moi, Paris, je veux les accrocher parce que Paris, c'est la richesse, c'est le pouvoir. Moi, je suis un mec de la rue, je suis contre ça.
Je suis un ultra.
Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es entraîné?
Il a dit, moi, j'aime pas le pouvoir.
Il s'est pris.
Il a dit.
Ouais, il s'est pris pour eux, je sais pas pour qui il s'est pris. Mais à un moment ou un autre,
pour le Che Guevara, il y a un petit décalage entre Jean-Michel et Dugas, c'est pour ça qu'on a du mal à installer.
C'est pour ça qu'à un moment ou un autre, je veux juste finir, après je vous laisse parler. Le contexte, bien sûr qu'il est particulier, mais il est pas dur, il est particulier. Moi, j'ai connu un contexte difficile. La rigolade dans les tribunes, ça chahute un petit peu, mais il y a plus de problèmes. Ok, bon, mais dans la rue, parfois, c'est un peu les gens sont, ils viennent un peu te parler. Régulièrement un peu quand t'es en famille machin, mais c'est pareil, il y a cette passion. Tu préfères quoi? Tu préfères être dans un club où il se passe jamais rien?
Et pourquoi personne n'y arrive alors, du gars? Parce que c'est ça la question. Pourquoi personne n'y arrive jamais alors,
à vous écouter, l'OM a jamais rien gagné, ça a toujours été nul à l'OM,
ça fait 15 ans.
Ça commence à dater, parce qu'il y a le PSG, parce qu'il y a un modèle économique, il y a des personnes qui ne sont pas compétentes. Est-ce qu'on peut juste se poser ça, plutôt que de mettre ça sur le dos des supporters qui remplissent le stade match après match, guichet fermé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais plus tellement. Et on s'en compte, c'est fort de café ça quand même. C'est ni la faute de l'entraîneur, ni la faute des joueurs, ni la faute des dirigeants, ni la faute de l'actionnaire. Non, c'est la faute des supporters et de l'environnement. C'est terrible de dire un truc comme ça.
Là où t'as raison, c'est vrai qu'on parle souvent du contexte, du truc. On a joué au foot. Vaut mieux être dans une ville qui vit pour son équipe plutôt qu'une ville qui
c'est magnifique. Est...
Non, mais j'ai connu les deux, donc moi je le sais. Je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est vrai que à Marseille, quand t'es un joueur, l'excitation, mais même les dirigeants, l'excitation ou entraîneur, l'excitation, c'est de faire grimper au rideau ces passionnés et cette ferveur là, et de leur montrer que bah il y a du répondant et que il y a de la stabilité et que c'est tout ce qu'on explique sur le football.
Et les discours sont changeants systématiquement,
ouais, c'est vrai,
ils changent
c'est
de discours, ils disent pas ce qu'ils font, ils font pas ce qu'ils disent, ils te parlent de stabilité, il y en a jamais, ça en devient ridicule quand on t'explique qu'il faut la stabilité, qu'on change de joueur.
Ouais, Jean-Michel,
tu le dis avec beaucoup de ferveur, mais ça se résume, tu l'as dit, compétence, un cap véritable et de la lucidité, voilà, et on a l'impression que tu le disais, chaque fois qu'il y avait un bon résultat, je les ai vus, c'est vrai que ils s'enflammaient pour des résultats qui étaient ce qu'ils étaient, mais qui ne t'apportaient rien d'autre
que trois points.
Et c'est vrai quand même que j'ai toujours en mémoire Jérôme les images du président dans les couloirs où les seul dans les couloirs de l'abbé Deschamps à
Auxerre,
lorsqu'il est seul, tu te dis ça relève pas loin de la
je suis
inquiet quand je vois quelqu'un se comporter comme ça, taper dans les portes alors qu'il est tout seul.
Il y a un problème de gestion émotionnelle, mais bien sûr,
c'est vrai, c'est vrai que Dugas et Jean-Michel, vous aviez été loin dans les critiques l'année dernière sur le comportement de Pablo Longoria à Auxerre, je me souviens très bien. Et moi, j'avais pris sa défense. J'avais dit, bon, ça peut arriver une fois et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, quand tu vois... quand tu vois tout ce qui s'est passé depuis... Bah, tu te dis que, en effet, ces gens-là, ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Et le problème, c'est que lui a pris du recul. Parce que Longoria, la vérité, c'est que tu l'entends beaucoup moins qu'avant.
C'est vrai.
Mais il a filé le témoin à Benatia, qui a lui aussi, et pourtant il connaît le contexte, mais dit, moi c'est là, je comprends pas qu'il ait explosé un petit peu comme ça en plein vol. Parce que dans l'enflammade, on parle de De Zerbi, ok, mais De Zerbi, moi je pense qu'il a été surcoté tout de suite, il est surcoté ce mec-là, et il s'est pris pour un cador alors qu'il est loin d'être un cador. Mais Mehdi, il a fait du bon boulot. Il a malheureusement été dans l'instabilité comme tous les autres, et ça, moi, ça m'a déçu qu'il soit autant dans l'instabilité. Mais la vérité, c'est que lui aussi, dans l'enflammade, il l'a été. Rappelle-toi le discours après la victoire contre Newcastle.
Oui.
Où Newcastle, t'as l'impression que c'était déjà qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, qu'ils ont battu Newcastle. Que derrière, il commençait à régler ses comptes avec tous ceux qui critiquaient en disant je vous l'avais dit, qu'il y a une grande équipe. Je vous l'avais dit. Qu'il y a des grands joueurs. Et puis après, il se retourne sur les jeunes, et il dit les jeunes, écoutez pas les critiques, c'est pour faire mal au vestiaire.
Non, il a dit c'est l'avenir de l'OM, il y en a deux qui sont partis deux mois après. Bande de Bacola et bande de Robinho.
Notre équipe, elle est forte, on est fort.
C'est ça.
Mais alors, je voulais juste qu'on aborde un point de vue qu'on n'a pas encore abordé depuis le début de ce débat, c'est aussi le contexte médiatique. On va pas se mentir, on en fait partie intégrante parce que nous, on parle très régulièrement de l'OM dans Rotten Sans Flamme.
Comme du Paris Saint-Germain.
C'est vrai aussi qu'il faut dire qu'il y a une pression médiatique beaucoup plus forte sur Marseille que sur les autres clubs de Ligue 1.
Mais tu préfères quoi quand t'es joueur?
Non, mais alors, c'est une question que je vous pose. Est-ce que ça aussi, c'est pas dur à supporter? Parce que ça veut dire que toutes les paroles que tu prononces, elles sont décortiquées, tu vas analyser chaque mot qui a été prononcé. C'est pas le cas pour les autres clubs, tu vois.
Mais quand on parle de pression, dans les grands clubs, oui, c'est ça, ça part de là. La pression médiatique, c'est pas que la pression du terrain. La pression médiatique, c'est ça. C'est qu'il faut être exigeant.
Oui, mais c'est pas facile, Jérôme. C'est ça que
Mais je te dis pas que c'est facile, mais Dugas vient de le dire.
Mais en plus, c'est pas quand même. En plus, on est une émission de radio. Alors certes, qui écoutez, mais on est qu'une émission de radio. Il n'y a pas des émissions de télé tous les soirs. Il y a pas de. Mais c'est rien ce qui se passe.
On est quand même pas comme à l'étranger, ça c'est sûr.
Mais d'accord, mais c'est rien. C'est pas grand chose. Il y a 10 fois pire en Italie, en Espagne, en Angleterre, avec des émissions. En veux-tu, en voilà. C'est rien du tout. Puis le mec, il veut pas écouter la radio, il coupe la radio. C'est comme sur les réseaux sociaux. Tu veux pas écouter les critiques des réseaux sociaux, mais tu t'enlèves les réseaux sociaux.
Exactement.
Si t'es pas capable d'entendre les critiques que tu subis à l'OM, mais porte pas le maillot. Tu sais dès le départ que ça va exister.
Mais tu tu sais, du gars, là où tu disais dans le recrutement, avec le nombre d'arrivées, de départs, tu comprends plus rien, plus de 150 mouvements, t'imagines quand même, c'est là, 5 arrivées au mercato d'hiver, au mercato d'été, 13 arrivées, 15 départs. Non, mais franchement, à l'arrivée, quand tu prends autant de joueurs, quand t'en prends autant, tu sais que de toute façon, c'est une façon de dire, bah écoute, sur les 13, peut-être qu'il y en a un ou deux qui va réussir à s'adapter, et comme ça, au moins, c'est ma garantie, elle est là. Le problème, c'est que quand sur les 13, eh ben, t'en as 11 ou 12 qui arrivent pas à s'acclimater, parce que tout le contexte que tu viens de dire, la pression médiatique, mais moi, j'y crois pas à ça. Parce que moi, on a été dans des clubs. La pression médiatique. Pilote, mais Dugage, mais regarde, Dugage jouait à Marseille. Jean-Michel, je sais pas, je connais pas le contexte de l'époque à Saint-Étienne.
Nous, les journalistes de Paris, le seul club qui les suivait à mon époque,
c'était Saint-Étienne.
C'était Saint-Étienne. On n'en est pas mort, on l'a supporté sans aucun problème. Mais le symbole.
Mais sauf qu'il y a une vraie différence. C'est que toi, c'était un club qui gagnait. C'est ça la différence. C'est que le traitement médiatique par rapport au résultat de l'équipe.
Et on en revient à la compétence.
Il y a un écart.
Non, mais Benoît.
Oui.
Et il l'a dit. Ils l'ont dit, que ce soit Jérôme, que ce soit Dugas. Ils l'ont dit. On ne demande pas à Marseille d'être devant le Paris Saint-Germain à tout bout de champ. On demande à Marseille, avec son budget, d'être un club qui réussit normalement.
Mais oui,
c'est tout. On leur demande pas de décrocher la lune, Benoît. On demande à l'Olympique de Marseille de temps en temps d'être dans la roue du Paris Saint-Germain quelques années, puis à un moment donné quand tu joues contre eux y a 6 points en jeu, si tu perds les 6 points tu es plus dans la roue, mais au moins d'accrocher une Coupe de France.
Non, mais Jean-Michel, d'avoir dans ces clubs là et c'est pour répondre à Benoît, et tu disais à Jean-Michel, vous avez gagné avec Saint-Étienne, sauf que moi à Paris, nous, des fois, on gagnait pas. Et il y a une année où on a joué le maintien. Alors, je peux te dire que la pression, elle était comme ce qui représente aujourd'hui pour les joueurs à Marseille. C'était beaucoup de les critiques. Il fallait l'assumer. C'est pas facile. Attention, c'est pas facile. Mais tu te mets dans ta bulle. Ouais. Et c'est l'avantage du football, c'est que on est tous, et en plus dans une génération où c'était, je te dis, en termes de critiques, ça commençait à être un peu comme aujourd'hui. Tu vois, il y avait des émissions, on se faisait fracasse, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que quand la pression, tu la ressens quand tu rentres sur le terrain, parce que le contexte, la ferveur, les gens sont énervés parce qu'eux, ils ont envie de voir une équipe qui leur fait plaisir et qui leur ressemble. Donc quand elle n'est pas comme ça, et Jean-Michel te le disait, cette année, on demande pas à Marseille de battre Liverpool, on demande pas à Marseille de battre le Paris Saint-Germain, et pourtant ils l'ont fait.
On demande à Marseille d'avoir
tu la surestimes surtout.
Non, parce que vous mettez de côté toutes les reprises, réseaux sociaux, tout ce qui ressort.
Allô, c'est des joueurs de foot, c'est pas des mecs des joueurs de foot.
Mais tu tombes dessus forcément.
Arrête un peu, le jour ils vont aller.
Mais regarde la susceptibilité de Desarmi sur votre propos à chacun. Regardez comme il s'est susceptible par rapport à ce que vous disiez.
Je peux pas te laisser dire ça. C'est quand même pas les réseaux sociaux. C'est quand même pas les réseaux sociaux qui ont demandé à Desarmi de titulariser deux nouveaux joueurs, Loïneri et Timber, à 48 heures après qu'ils sont arrivés. C'est pas les réseaux sociaux qui m'ont demandé ça.
Je suis d'accord, mais ça fait partie du contexte dont on parle depuis 18 heures.
C'est à cause des réseaux sociaux qu'il y a eu le cas Rabiot qui t'a plombé le mois d'août.
Non, mais par contre, on a parlé 3 semaines sur les réseaux sociaux, partout sur RMC, dans tous les médias, bien sûr.
Mais la faute à qui?
Qui
a fait fuiter
les réseaux sociaux, ça intéresse qui? J'y suis pas, moi, sur les réseaux sociaux.
En plus.
Alors, qu'est-ce qu'on s'en fait?
Parce que ça vous intéresse pas, que ça touche pas la nouvelle génération.
Mais non,
ils ont qu'à s'en sortir. Si ça les touche, ils ont l'avantage de pouvoir.
Mais Benoît, là où tu te contredis, c'est que tu me dis la nouvelle génération. Ok, les gamins de 20 ans, 25 ans, ok. Mais Desherby, quel âge il a? Il a notre âge quasiment.
Mais c'est pas vrai.
Il a mon âge quasiment.
Tu sais comme moi.
Mais les réseaux sociaux, il est comme moi. Donc les réseaux sociaux, à mon avis, c'est quoi? Il les regarde et on lui rapporte. Et alors c'est grave parce que Dugarry, parce que Roten, parce que Larquet, ils l'ont dézingué. Et c'est grave pour faire ta composition d'équipe et pour dégager de la constance. Mais franchement, arrête tes bêtises.
C'est notre faute. Il a mis 33 compositions d'équipe.
Je vous ai juste dit que c'était un élément.
Et l'année dernière, pour finir deuxième, est-ce que les réseaux sociaux étaient un problème pour deux Zerbi?
Tout autant. Bah, on parlait moins de l'OM parce qu'il y avait moins de matchs pour l'OM.
Bah, voilà. Et là, il savait bomber le torse.
Stop. Je me fais crier dessus par le producteur. Donc on y va. C'est le moment. Eh oui, le moment pour tenter de gagner jusqu'à 30 000 euros. Eh oui, 30 000 euros en cash net d'impôt dans quelques jours sur votre compte en banque.
30 000, c'est demain.
Grâce à la roue RMC, vendredi 13. Vous envoyez 13 par SMS au 732-16. Allez. Normalement, c'est 5 minutes. On vous donne 10 minutes.
Allez, 10 minutes jusqu'à
18h39. Allez, 40 même. 40, on arrondit. 18h40 pour tenter de remporter 30 000 euros en cash demain dans Rotten sans flamme. Dans un instant, on parle de Nasser El Khelaifi, accusé de faire couler le foot français. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h34 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue nos débats. Et là, un bon procès. Sur Nasser El Khelaifi, on est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Après, à 18h45, le Allo Jérôme.
Une légende du FC Nantes.
Ah bah oui,
Renal Pedro, on est ravis d'accueillir là. D'ailleurs. Ouais.
Mais là, on y va, on est un peu à la bourre. Allez, à cause de toi, Benoît. C'est allez, go.
RMC, Rotten sans flamme.
We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully.
John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, right. You coming, I don't
I'm
know
an
where.
Outsider.
And you talking to us.
Vincent,
Jean-Pierre.
Le procès de Rotten sans flamme.
Alors, vous le savez, il y a un conseil d'administration sous tension à la Ligue aujourd'hui. La menace de départ de Nicolas Taverneau, le DG de LFP Média. L'objet du conflit, c'est donc le fait que beIN Sport ait récupéré et acquis les droits de la Coupe du Monde 2026 aux dépens de Ligue 1 Plus, qui disposait d'un préaccord avec la FIFA. Le problème, c'est que Nicolas Taverneau regrette le manque de soutien et l'unité de la Ligue. Mais forcément, dans la Ligue, il y a le Paris Saint-Germain qui était représenté par le DG Victor Mellero, voilà, donc c'est lui qui représentait le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas directement Nasser El Khelaifi, mais l'ombre du président plane au-dessus de tout ça. Il a deux casquettes, celle de président du PSG et celle de président de beIN Media Group. La FIFA a apporté son soutien à Nasser El Khelaifi aujourd'hui en disant que les relations étaient longues et très bonnes avec beIN Sport. Ce n'est pas Nasser El Khelaifi qui gérait les dossiers directement. Et je vous indique juste que Philippe Diallo, le président de la Fédé, a également réagi en disant que c'était un coup dur pour Ligue 1 Plus, mais qu'il fallait passer à autre chose désormais. Le procès ce soir, Nasser El Khelaifi, accusé de faire couler le foot français. Le procureur, c'est monsieur Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir.
On a deux avocats, Jérôme Rotten et Jean-Michel Larquet. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et Charlie va rendre son verdict au 32-16. Salut Charlie.
Salut l'équipe. Salut à tous.
Salut Charlie.
Sois le bienvenu.
Salut.
Vas-y Dugas, tu peux y aller.
Écoute, c'est une position qui est pas facile à défendre, mais je vais essayer de le faire du mieux possible. Je pense pas que le foot français, avant de couler, il a eu besoin de Nasser, du président Nasser. Maintenant, je pense que le président Nasser tente un équilibre impossible entre son rôle de président du Paris Saint-Germain et son rôle de président de beIN Sport. Quand tout allait bien à une époque et que l'argent coulait à flot et que la stratégie de beIN était justement d'en donner le plus possible pour faire du bien au football, que ça retourne au Paris Saint-Germain qu'il y avait une stratégie qui était totalement différente et de dépenser beaucoup plus d'argent, voire parfois un petit peu en surestimant le prix de la Ligue 1, ça a changé. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Donc, ça se tend. Il y a de moins en moins d'argent. beIN a changé de stratégie, veut en donner de moins en moins. N'hésite pas à lancer des procédures contre la LFP et contre LFP Média. Je trouve qu'au bout d'un moment, ce n'est plus tenable. C'est-à-dire que tu ne peux pas être... Alors, je serai dans la position du président Nasser, j'aurais peut-être fait ce qu'il a fait aussi, hein. Il a deux casquettes qui sont extrêmement difficiles à combiner. Moi je pense qu'à un moment ou un autre il va falloir faire un choix pour lui, et tu ne peux pas être et président de beIN qui est en concurrence directe aujourd'hui avec LFP Média et avec la Ligue, c'est une réalité, et président du Paris Saint-Germain. Je vois pas comment on peut trouver un arrangement avec ces deux casquettes-là. Donc voilà, moi je trouve que je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire un choix. Et la meilleure façon de faire un choix pour le président, s'il veut aider la Ligue 1 à s'en sortir et donner une chance à la Ligue 1, je pense même au président Labrune, voilà, qui est un peu l'agent double à la Ligue, qui est l'ami de Nasser à la Ligue. Voilà, je trouve qu'il y a trop d'entre-soi, il y a trop de copinage. Trop et au bout d'un moment, quand les intérêts ne sont plus communs, il faut faire des choix et prendre des décisions. Et je pense que la meilleure des décisions, ça serait que le président Nasser arrête de ce qu'il fait avec Bein. Voilà.
Maître Roten.
Bon, après, Monsieur Dugarry était un peu hors sud du moins, il a pas été virulent. Du moins, c'est le thème du débat, c'est bien Nasser Al-Khelaïfi fait tout pour tuer la Ligue 1. En effet.
Accusé de faire couler le foot français.
Voilà, ouais. Donc, moi, j'ai entendu des termes dernièrement où il veut tuer la Ligue 1. Donc, bon, juste un rappel des faits, et c'est factuel, c'est comme ça. Bein, cette année, a un match encore sur la Ligue 1. Il paye 80 millions un match. D'accord ? 80 millions. On est d'accord ? Et c'est un match cacahuète, hein, c'est pas l'affiche. Hein. Donc, déjà, pour quelqu'un qui veut tuer la Ligue 1, il donne 80 millions depuis pas mal d'années. En plus de ça, avec Bein, vu qu'il veut tuer la Ligue 1, depuis 2011, et moi je sais parce que j'étais joueur et on a été à l'ouverture de Bein, ils sont régulièrement sur les droits de la Ligue 1. D'accord, avec Canal, ils étaient sur les droits de la Ligue 1.
Non, mais
ils étaient sur les droits de la Ligue 1, donc ils ont mis beaucoup d'argent pendant plus de 10 ans. D'accord ? La Ligue 2, rassurez-moi, fait partie du football français.
Ouais.
D'accord ? Donc, qui c'est qui a les droits de la Ligue 2 ? C'est Bein. Personne n'en voulait. Ils ont donné 200 millions sur 5 ans. D'accord ? Pour quelqu'un qui veut la mort du football français et de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, bah, il met quand même 200 millions sur la table. Alors que personne n'en voulait. Et l'équipe a essayé. Hein. Heureusement qu'ils se sont arrêtés parce que c'était catastrophique. Ça, c'est une petite parenthèse. Après, sur le projet Ligue 1 Plus. On reproche à Nasser, en effet, de faire tout contre la Ligue 1 Plus. Je pense que ça a été un de ceux qui s'est mis en avant en disant « On fait une connerie si on part et on crée une chaîne, ça s'est jamais vu ailleurs. » Pour les finances des clubs, alors il parlait pour tous les clubs, parce que le PSG, ils sont à l'abri financièrement, on est d'accord, avec la Coupe d'Europe et tout ça. Mais pour les finances de certains clubs, et on le voit actuellement, c'est la mort. C'est la mort de ces clubs-là, parce qu'il n'y aura aucune rentrée. Ce qui se passe cette année. Ce qui se passe en termes de revenus, en termes d'abonnés, ils sont bien en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Donc, excuse-moi de dire que lui a toujours été contre ça. Ils ont décidé de la créer. Pas de problème. Il fait partie du package. Et ben, il va avec. Il regarde ce qui se passe. Mais il a le droit aussi de donner son avis et de critiquer. Et puis, l'autre chose aussi, parce que moi, ça me fait rire. Parce qu'on parle de tuer la Ligue 1 parce qu'il s'est mis sur les droits. Ils se sont mis sur les droits de la Coupe du Monde. Alors, je sais pas, on a tous la télé. Il y a eu des Coupes du Monde avant. Tous les droits ont toujours été sur Bein. Tous les droits ont toujours été sur Bein. Ouais. Sous prétexte qu'aujourd'hui, la Ligue 1 se met en avant pour, alors, attention, la Ligue 1 Plus, c'est pour les droits de la Ligue 1. On est d'accord. Donc, jamais, quand ils ont créé Ligue 1 Plus, ils se sont dit, oh là là,
Mais là, il s'est réveillé après eux, quand même.
Non, mais attends. Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, la Ligue 1, tu te rends compte, Ligue 1 Plus, ils se sont mis sur les droits parce qu'il y avait personne. Et puis, De Taverneau, il a eu en plus le culot de dire, oui, il y a eu des accords avec la FIFA.
Les pré-accords.
Et puis, sauf que, les pré-accords, ils sont tombés à l'eau. La FIFA fait un communiqué aujourd'hui. Je vous envoie à lire le communiqué de la FIFA, qui a dit qu'il n'y avait jamais aucun accord.
C'est le propos du deuxième avocat.
Et donc, moi, je finis là-dessus sur le projet de la Ligue 1 Plus. Moi, c'est bien beau de nous expliquer que Ligue 1 Plus, qui est aujourd'hui un petit peu dans la mouise en termes d'abonnés, que d'un seul coup, ils se réveillent, ils se disent, on a besoin parce que là, deux mois sans match, c'est catastrophique pour les abonnés. Mais rassure-moi, Benoît, en début d'année, la Ligue 1, il le savait, Ligue 1 Plus, que pendant deux mois, il n'y avait pas à avoir de match.
Mais c'est pas pour ça que tu peux pas trouver de solution.
Ils t'ont pas vendu la Coupe du Monde. Attention, on va se mettre sur la Coupe du Monde.
Les Girondins de Bordeaux maintenant.
Les Girondins de Bordeaux. Donc, moi, je veux bien, mais arrêtez de faire un délit de sale gueule avec le président du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a montré plus d'une fois qu'en effet, la Ligue 1, il la respectait, il mettait beaucoup d'argent.
Mais sa position, elle est plus viable. Tu as raison, Jérôme, mais sa position.
Oui, mais la position, Dieu sait, si j'ai beaucoup
estime pour le président de Taverneau. On n'a pas découvert du jour au lendemain les conflits d'intérêts entre Bein et le Paris Saint-Germain, avec la double casquette de El Khelaïfi. Tout se passait bien lorsqu'il envoyait la monnaie. Il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Là, il y a des problèmes, et celui qui a rompu le lien, il s'appelle quand même... Qui est-ce qui a parlé d'agent double tout à l'heure, du gars?
Ouais, ouais. Eh ben oui, c'est la Brune. Ouais, ben
il s'appelle Vincent Labrune. Donc ben moi, oui. À un moment donné, que et puis quand tu as un vendeur qui n'est pas correct, je parle pas, je le traite pas de gougnafier, je le traite pas d'escroc. Je dis simplement que le vendeur, en l'occurrence c'est la FIFA, est incorrect. Elle demande à quelqu'un de remplir un dossier. Elle lui donne une deadline. Il remplit tous les critères, tous les paramètres, et puis que Bein se mette sur le marché, il tente le coup.
Bah c'est normal, c'est de la concurrence.
Il tente le coup, et comme en face d'eux, ils ont un vendeur qui est quelqu'un d'incorrect, et que entre le vendeur et l'acheteur, il y a quelqu'un qui joue un double jeu, tu l'as cité, moi... Bon. Si j'ai quelqu'un en face de moi, un vendeur qui est incorrect, qui me dit, monsieur Larquet, tout est ok, il n'y a pas de problème, et que derrière, il y en a un autre qui arrive, et qui est surenchéri.
Et qui met le double, tu vas où, toi?
Et que le vendeur
tu
est incorrect.
Tu prends le double ou,
je vais vous les donner, moi. Il y en a deux qui sont en train de tuer le football français. Oui, l'un s'appelle l'agent double, c'est Vincent Labrune, et l'autre, c'est quand même...
Il n'arrête pas de faire croire qu'il veut partir, mais il part jamais, celui-là.
Ouais, et l'autre, c'est quand même Gianni Infantino, qui va, sans scrupule, et malgré les communiqués, sans scrupule, au plus offrant, même si celui qui était le moins disant a fait les choses dans les règles.
Alors, Charlie, je suis désolé, on est très en retard. Qui remporte ce procès? Est-ce que c'est Dugas ou est-ce que c'est Jean-Michel et Jérôme?
Bah pour moi, c'est l'équipe Jean-Michel et Jérôme. Juste pour dire, c'est Jérôme avec son argument sur le fait que Bein ait mis plein de pognon sur la Ligue 2. Si c'est pas ça, sauver le foot français, c'est rien d'autre. Donc, quand tu fous autant de pognon sur la Ligue 2, c'est quand même que tu as un petit peu d'estime pour le foot français, parce qu'il n'y a pas de Ligue 1 sans Ligue 2 et vice versa.
Bah, c'était très clair. Merci Charlie. Victoire de Jérôme et Jean-Michel dans ce procès. Dans un instant, on parle de la situation du FC Nantes avec une légende du club, Reynald Pedros. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. Le Allo Jérôme, à l'instant, va être un bon moment avec Reynald Pedros, une légende du FC Nantes. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Après 19h,
vous l'aurez. Avis de recherche spécial, Christophe Dugarry. Il a marqué votre vie, vous avez marqué la sienne. Venez nous le dire au 32-16. Les témoignages s'accumulent. Également sur le numéro WhatsApp 0612 424 424. Certaines personnalités sont calées. On a encore de la place. N'hésitez pas. Vous voulez réagir. Vous avez des souvenirs communs avec Christophe Dugarry. Venez nous le dire au 32-16. Mais tout de suite, parlons d'un club, un monument du foot français en péril.
RLC, Rotten sans flamme.
Là encore un ballon perdu et récupéré heureusement par Laurent Guyot. Un ballon donné en profondeur pour Pedros.
Oulala, les buts.
Et but de Pedros. Superbe but de Pedros.
Oh, quel beau but.
Qui a profité de ce contre pour Lomé, Victor Bayard, rien à dire, rien à faire, c'était remarquable.
Allô Jérôme.
Reynald Pedros, légende du FC Nantes, champion de France 95 en direct avec nous Jérôme.
Quel honneur, salut Reynald.
On l'a fait briller.
Les gars, franchement, légende, c'est pour ceux qui sont disparus, non?
Ouais.
Non, il y a des légendes vivantes, Reynald.
Bah, on t'entend plus.
Alors c'est pour ça, pour nous, t'as disparu.
Je bosse, moi.
Je plaisante.
Bon, on est ravis de t'accueillir, Reynald.
En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans Rotten sans flamme.
Et on voulait l'avis d'un joueur qui a marqué l'histoire de ce club pour parler de la situation actuelle. Nantes est avant-dernier de Ligue 1, 14 points, 3 victoires, 5 nuls, 13 défaites. C'est le pire bilan de l'histoire du club à ce stade. On s'en même des supporters résignés. Quand on est une légende du FC Nantes, bah alors là, ça te fait rire un peu, mais en tout cas, un joueur qui a marqué le club, bah comment on réagit? Est-ce que tu es triste de voir ce qui se passe dans ton club de cœur?
En fait, tu as dit le mot, tu as dit résigné. Je crois que moi, personnellement, je vais parler en mon nom, j'attends plus grand-chose de cette équipe et de ce club. Tous les ans, c'est un club qu'on attend ou que j'attends dans la partie de tableau. Alors, si aller en haut de la deuxième partie de tableau, je suis content. Mais voilà, la plupart du temps, c'est une année difficile, une année de où ils jouent le maintien, une année où il y a des problèmes avec les supporters et le président. Voilà, enfin, c'est ça devient un peu toujours la même chose.
Et comment tu l'expliques justement ça? Parce qu'il y a des moyens qui quand même qui sont mis par le président. Il a quand même mis beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un problème tout simplement de compétences?
J'ai cru, je me trompe peut-être, mais j'ai cru voir qu'il y avait un budget de 50 millions. Un budget de 50 millions, je crois que c'est à peu près vers le 13e budget de. Il y a plus que ça?
Ouais, je pense, je vais te dire.
En tout cas, il n'y a pas un investissement sur le mercato d'été. Là, ils ont un peu réajusté cet hiver, mais il n'y avait pas
quand on réagit à la trêve, on fait jamais de très bonnes affaires. Je suis pas sûr qu'à la trêve on fasse de très bonnes affaires. On ajuste souvent son effectif, mais pour jouer le maintien, on prend des joueurs qui jouent pas dans d'autres clubs. Il y a Cabella qui est arrivé, c'est un joueur de qualité, mais faudrait-il encore qu'il y ait du monde autour de lui qui puisse le faire briller. Mais je suis pas sûr qu'on fasse toujours un très bon mercato à la trêve hivernale. Après, il y a le problème aussi de l'entraîneur. Le problème c'est que c'est un club qui change énormément d'entraîneurs. Il y a pas de continuité. C'est juste des coups. Quand Antoine Comboiré est arrivé à la rescousse du club, il a sauvé le club et puis il est resté, un an et demi ou deux ans de plus, et puis il est reparti, puis il est revenu. Enfin bon, j'ai l'impression que c'est un club qui cherche à faire des coups avec les entraîneurs, ou du moins qui mettent pas l'entraîneur à sa juste valeur. Un entraîneur, c'est très important. C'est pas seulement
quelque chose. Surtout à Nantes.
Rénal, puisque moi j'ai l'impression que ce club a perdu son âme. Tu parlais des entraîneurs. Moi j'ai connu une époque où il y avait Arribas, puis Ciodo, puis Rénal. De Noël, tu étais avec Rénal, toi, non?
Moi j'étais à la formation Ciodo avec Rénal et après j'étais avec Coco.
Voilà. Donc, ces entraîneurs duraient 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Et à l'époque également, il y avait quand même une formation qui était la plus performante de France. Ils ont tout perdu. Et la stabilité.
Ça veut dire qu'il faut faire quoi, sa capitaine? Parce que ça, c'est un constat. Mais après, ça va finir comment? Ça va finir comme Bordeaux? C'est-à-dire, c'est un Américain qui va arriver, qui va racheter le club. Ça va être encore pire. Hein? Aujourd'hui, la solution à Nantes, c'est quoi? C'est de faire partir le président.
Lopez,
c'est quoi?
Il va tout te sauver, Lopez.
C'est vrai. Quelle est la solution? Est-ce que c'est vraiment Valdemar Quitta le problème? Est-ce qu'on est sûr que sans Quitta, ça marcherait mieux? Rénal, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis pas sûr, mais après Jean-Michel, tu parles d'une époque qui n'existe plus. La formation. La formation, c'est quoi? La formation, c'est du temps. On peut prendre le cas de notre génération. Avant d'éclore, avant de venir en pro, on était un peu parachutés parce que le club était en grande difficulté. Mais je veux dire, toutes ces années qu'on a passées à la formation. Quand on est arrivé nous, le club n'avait pas la certitude que ça marche. Par le plus grand des bonheurs, c'est vrai que ça a fonctionné et très bien fonctionné. Mais la formation, c'est du temps. Il faut laisser le temps aux entraîneurs. Est-ce qu'aujourd'hui un entraîneur a vraiment le temps de travailler avec des jeunes?
La preuve que non, parce que le projet était jeune avec Castro.
Ouais, Castro.
Et puis au bout de 4 mois, on l'a dégagé.
Voilà. Donc il y a pas de projet à long terme. Il y a un projet à court terme de résultats. Bon, le résultat c'est important aujourd'hui, hein. Ça prend le dessus sur pas mal de choses. Mais il y a un projet à court terme et on se dit, si ça va pas, on changera l'entraîneur, c'est pas grave. Et puis on verra bien avec le prochain. Il n'y a pas de continuité. Je pense qu'à Nantes, il y a des bons jeunes. Je pense que la formation, elle a changé parce que les jeunes ont évolué aussi. C'est plus les mêmes qualités, c'est plus les mêmes mentalités. Mais je pense que là, il y a toujours de la formation à Nantes. Après, il faut que ça vienne du président. Si un président décide, moi, quoi qu'il arrive, je pars avec cet entraîneur, on ira au bout cette année. Et puis, si on doit descendre, on descendra, mais on ira au bout parce que moi, je veux que les jeunes y jouent. On peut
mais
pas.
Tu es d'accord avec les supporters de Rénal qui disent allez, descendons en Ligue 2 pour faire table rase du passé. Moi, je suis pas d'accord.
Ils l'ont déjà fait.
Avec,
hein.
Avec Saint-Etienne, oui, mais avec Saint-Etienne ou avec les Girondins de Bordeaux, on est bien placé avec Dugas pour savoir que descendre, c'est très facile, remonter, ça allait beaucoup.
Oui, ça, c'est une certitude. Hein. Vaut mieux être en haut qu'en bas. Hein. Ça, c'est voilà, c'est une certitude. Maintenant, il y a eu des exemples de clubs qui l'ont fait. Nantes l'a fait aussi. Hein. Valdemar Quita est descendu en D2, il est remonté. Voilà. Mais je veux dire, moi, je pense que c'est un projet de club. Voilà, on décide de faire jouer la formation. Bah, on fait jouer les meilleurs jeunes avec des joueurs d'expérience. Mais quand je dis des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont une mentalité particulière, qui s'investissent dans le club, qui s'investiront avec les jeunes, qui voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le FC Nantes ou un autre club hein, est capable de le faire? J'en suis pas sûr.
Bonne question.
Ça c'est vrai.
J'en suis pas sûr. Je vois pas moi aujourd'hui dans ce championnat. On peut prendre Auxerre. Hein. Je vois pas aujourd'hui dans ce championnat un club formateur qui forme des jeunes, qui a une ossature de jeunes de la formation avec des anciens qui performent. Mmh. Voilà, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le football. Moi, je pense que quand on a de l'argent, il faut acheter intelligemment, il faut faire les choses intelligemment. Moi, je trouve qu'à Nantes, il y a beaucoup de joueurs qui sont surcotés, qui sont surpayés, qui sont, voilà quoi. Moi, je regarde quelques matchs. Hein. Ouais. Je vais pas vous dire que je suis assidu au FC Nantes, mais j'ai regardé le dernier match contre Lorient. C'était frustrant. Mais je veux dire, c'était frustrant. Mais ce match-là, ils doivent jamais le perdre. À l'arrivée, tu prends pas beaucoup de plaisir quand même à les voir jouer. C'est difficile. Alors la situation, elle est difficile. Quand on joue le maintien, il faut avoir des joueurs aussi qui ont cette capacité. Mental à jouer le maintien aussi. Hein. Si tu prends des joueurs qui jouent que la première partie de tableau et qui jouent que les premiers rôles et que tu les fais jouer dans une équipe qui joue le maintien, ça va être compliqué. Donc voilà, mais moi je pense que c'est un projet club, c'est le président qui doit donner le. Ou aussi un directeur sportif, bon, c'est lui qui doit donner le programme de l'équipe en disant voilà, on se tourne vers cette orientation, Castro, voilà, on se tourne vers cette orientation, Castro, on va le chercher. On lui donne confiance.
Tu sais qu'avec lui, avec Quita, c'est pas possible. Il a déjà montré la stabilité. C'est sa marque de fabrique.
Comme je te disais tout à l'heure, c'est un club qui écume les entraîneurs. Ouais.
Quand un retour de Reynald Pedros à Nantes alors?
Reynald est en Côte d'Ivoire là.
Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Non, c'est pas d'actualité, mais bon, ben déjà, sélectionneur de la Côte d'Ivoire féminine.
Pour l'instant.
Comment Reynald Pedros, ancien international français, se retrouve à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire et a pas été contacté par l'équipe de France?
Je vais pas rentrer dans les détails.
Moi je le dis parce que t'as gagné la Ligue des Champions avec Lyon et tu as montré tes compétences et tes qualités. À l'arrivée, on a préféré un autre entraîneur.
J'ai postulé.
Mais t'as pas été retenu.
Et t'as vu passer le train. Et on m'a ouvert la porte en me disant bah, c'est pas la sortie.
C'est Domenech qui a dû mettre son veto.
Sérieusement, j'ai postulé et voilà, on m'a dit. On a choisi d'être dans la continuité. Bah voilà, très bien, il y a pas de problème.
C'est vrai que ça marche bien.
Merci beaucoup, Rénal,
et puis bon courage pour la suite.
Je peux faire une petite parenthèse.
Vas-y.
Alors je vais m'adresser à Dugas et à toi, Jérôme. Non, mais il y a quelques temps, j'ai pu écouter votre émission. Il y a même quelques mois. Et Dugas t'avait dit à toi que j'étais sorti du vélodrome dans le coffre d'une voiture. Tu te souviens de ça? Alors, je vais répondre parce que je ne suis jamais sorti du
vélodrome. C'est Lechkov.
Voilà.
C'est Lechkov, voilà. Il n'avait pas de cheveux, c'est plus facile.
Si tu me confonds avec Lechkov, c'est qu'il y a un problème.
C'est pas la même chevelure.
Il est bien carbo, Jérôme.
Rénal, merci beaucoup d'être venu en tout cas. La rectification
en tout cas,
est passée.
Merci à vous et puis passez une bonne fin d'après-midi.
Salut Rénal, à bientôt.
Allez, dans un instant, c'est le grand moment, l'avis de recherche de Christophe Dugarry. S'il a marqué votre vie, venez nous le dire au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.